Des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, je suis Clotilde Sey, je vous accompagne une nouvelle fois pour la prochaine heure pour vous parler, pour vous faire découvrir des livres audio que vous ne connaissez peut-être pas encore, que ce soit d'ailleurs sur papier ou des livres à lire par les oreilles. On va commencer cette émission avec un sujet pas forcément facile, un sujet qui représente des milliers, des millions d'histoires vécues de par le monde et au Canada. La réalité historique et contemporaine des Noirs et Noireux que nous côtoyons chaque jour, en ignorant la plupart du temps que si le passé esclavagiste est révolu, le présent, y compris dans notre belle province, est souvent aussi sombre que la couleur de la peau. Noir sous surveillance, c'est un essai lourd dans le sens de fouiller, de très documenté de Robin Ménard, lu par la formidable comédienne qui est Mireille Métellus, qui va venir nous parler de ce livre, de la réalité des Noirs, des Noirs au masculin et au féminin d'aujourd'hui, et de la sienne de réalité peut-être aussi en qualité de comédienne et surtout de femme. En seconde partie, avec Marie-Ève Groux, changement de sujet, nous allons regarder ensemble les nouvelles productions de Vues et Voix pour la jeunesse et je vous ferai part de quelques nouvelles qui concernent le livre audio. Et bien sûr, j'aurai aussi des livres à vous proposer. Pour accueillir Mireille Métellus, avant de l'accueillir, j'ai envie de dire, faisons-nous plaisir peut-être avec cet extrait de la bande originale du film The Power of One, un film qui m'a terriblement marqué, réalisé en 1992 par John J. Avildsen. Sur ces images qui nous amènent en Afrique du Sud, la musique de Hans Zimmer qui est interprétée par des chœurs sud-africains et qui m'a également marqué à vie, j'ai envie de dire, au fer rouge. Je précise que ce montage musical n'apparaît pas dans le livre Noir sous surveillance qui est tenu à bout de bras par la voix de Mireille Métellus.
Oh, L'esclavage s'est pratiqué au Canada pendant plus de 2 siècles. Néanmoins, la plupart des écoles de ce pays n'enseignent ni les réalités de l'esclavage canadien, ni les multiples brimades infligées aux populations noires du Canada. Brillant par son absence dans l'enseignement, l'esclavage qui s'est pratiqué au Canada se fait aussi très discret dans la recherche. Le fait que la plupart des universités canadiennes n'ont pas de département d'études noires s'avère aussi particulièrement révélateur. Signalons l'exception notable d'un programme de mineurs en études de la diaspora noire et africaine ouvert en 2016 à l'Université Dalhousie. Trop peu d'historiens ont porté ou portent aujourd'hui un regard critique sur l'esclavage qui s'est pratiqué au Canada, et rares sont en définitive les Canadiens qui connaissent cette partie de leur histoire. Quand il arrive que l'esclavage canadien soit mentionné, ce qui est rare, il est généralement présenté comme un phénomène de peu de conséquences et de courte durée. Or, l'esclavage n'est jamais de peu de conséquences. La domination et l'asservissement d'un groupe d'êtres humains par un autre supposent forcément des menaces ou des actes de brutalité qui s'expriment de multiples façons. La capture des Noirs et les moyens utilisés pour assujettir leur corps constituent une violence fondamentale sur laquelle s'appuie tout le système esclavagiste. Le maintien d'un être humain en servitude passe nécessairement par les privations sociales et matérielles, la surveillance et les châtiments corporels. Cette violence se traduit souvent de manière particulièrement répugnante. Poétesse, réalisatrice et historienne néo-écossaise d'ascendance africaine, Sylvia Hamilton rapporte ainsi l'histoire de Lydia Jackson, une jeune femme noire libre ayant vécu en Nouvelle-Écosse au XVIIIe siècle. Capturée et réduite en esclavage, elle est vendue à un maître et son épouse qui la frappe régulièrement au visage et à la tête avec de grandes pinces, des cordes ou des bâtons. Elle sera même piétinée alors qu'elle est allongée par terre, enceinte de 9 mois. Cette violence est cautionnée par l'État. Le tribunal rejette sa plainte pour maltraitance.
Mireille Metellus, bonjour.
Bonjour Clotilde.
La musique de The Power of One. Mm. Quel film et quelle musique signée Monsieur Herman, si mes souvenirs sont bons. Mireille Metellus, et quel livre.
Quel livre.
Noir sous surveillance, livre de Robin Menard, que vous connaissez. Est-ce que vous la connaissez
Je l'ai rencontrée, ce n'est pas une amie personnelle, mais je l'ai rencontrée dans toutes ses activités qu'elle fait, donc en tant comme une grande activiste aussi. Et la traduction, je dois dire que la traduction de Catherine Ego est superbe aussi.
Est superbe.
Oui.
Quelle densité d'informations et quelle tristesse. Moi qui suis blanche de peau, vous êtes noire de peau, Mireille, je suis blanche de peau. On vous a choisi, vous, parce que justement, on voulait quelqu'un qui porte dans ses veines cette mémoire ancestrale de la douleur et du non-respect de façon générale, notamment au Canada,
Surtout de la compréhension.
La compréhension
De cette douleur.
Et ouais.
Juste avant qu'on commence l'extrait, vous avez mis cette affaire glacer le sang.
Ouais.
C'est avec l'extrait. Enfin, j'entends ma voix aussi,
Ça
m'émeut un
ça
peu.
Vous aime, oui.
Ça m'émeut, ça m'émeut et la musique que vous avez choisie, vraiment. Oui.
Merci.
Puis j'ai la chair de poule.
Mireille, bon, très rapidement, parce que je sais que vous n'aimez pas parler de vous, mais vous êtes comédienne, vous êtes d'origine haïtienne.
Donc, comédienne, enseignante retraitée.
Enseignante retraitée.
Intervenante psychosociale, et mère, grand-mère, grande-tante, voilà, tout ça.
Allez, ça y est, tout ça,
ça y est, c'est fait.
Parlons, ça y est.
Ça y est.
Parlons maintenant donc de ce livre, Noir sous surveillance. Mm-hmm. C'est un essai dérangeant. Je veux dire que dérangeant dans le sens où, oui, on le sait, nous, tu sais, on l'imagine, on sait qu'il y a de la répression policière beaucoup plus, mais on a l'impression qu'on vit, on n'est pas conscient,
vous savez,
de la réalité.
Pour moi, quand j'avais lu ce livre, et quand c'est vous qui avez fait l'audition avec moi, il faut dire aux gens qu'on a passé une audition, j'ai été choisie, très heureuse, et d'autant plus que je connaissais le livre. Et vous savez que c'est dérangeant même pour des Noirs qui ne connaissent pas l'histoire des Noirs du Canada.
Et il y en a beaucoup.
Et il y en a beaucoup qui ne savent pas.
Chez les jeunes.
Ben oui. Et même des gens qui vont dire, oh oui, il y a ça, mais ce n'est pas tout à fait exactement comme aux États-Unis. Parce qu'on essaie toujours de comparer la présence des Noirs au Canada comme si ce n'est pas pareil aux États-Unis parce qu'il y avait l'esclavage. Mais les gens oublie qu'il y a l'esclavage ici, qu'il y a eu l'esclavage ici.
Oui, parce qu'on a l'impression qu'on se donne bonne conscience au Canada. Oui, il y a eu l'esclavage, mais on les a accueillis.
On les a accueillis, ils ont été traités comment ? Qui avait droit d'avoir des esclaves ici ? Le clergé avait droit d'avoir des esclaves. Ils avaient les moyens. Des grandes familles avaient eu des esclaves. Je me rappelle on le trouve parce que dans le livre de Paul Femi Brown, qui est décédé malheureusement en 2019, qui était historien et qui a écrit sur l'histoire des Noirs au Canada, qui s'appelle « Ces Canadiens oubliés ». Donc des Canadiens noirs qui ont fait la guerre, qui ont défendu le Canada. Et ces Noirs sont nés ici. Ils ne venaient pas de Barbade ni d'Haïti, mais ils sont venus. Ils étaient là.
Armes à la main pour défendre le drapeau.
Et même là, il y avait le racisme, dans le sens qu'eux, ils pouvaient aller pieds nus pendant que les autres avaient des bottes. Ouais. Les gens ne savent pas ça.
Cette conscience que vous, Mireille Métellus, et beaucoup d'autres avez possédée, je veux dire, il y a sûrement plein de choses que vous saviez déjà, mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises en lisant ce livre de Robin Ménard, Noir sous surveillance?
Honnêtement, bien sûr, c'est comme si c'est dans la mémoire qui revient, parce que grâce à la communauté noire anglophone, puisque j'ai beaucoup travaillé dans la communauté noire anglophone dans les années 70, 75, jusqu'en 80, avec le Negro Community Center, le Black Studies Center, avec le Black Theater Workshop, du côté anglais qui... j'ai eu l'enseignement de la culture noire canadienne, enfin la présence des Noirs ici au Canada grâce à eux. Parce que eux, ils le savaient beaucoup plus. Parce qu'on pense souvent que les Noirs arrivent plutôt du côté noir francophone, qu'on arrive seulement à partir des années 70, la présence des Haïtiens qui sont là. Mais voilà que Canada a des Noirs depuis Champlain, parce que le traducteur, l'interprète de Champlain, Matthew D'Acosta, parlait le Micmac. Il était l'interprète de Champlain. Donc vous imaginez depuis quand les Noirs sont au Canada? Nouvelle-Écosse, tout ça là. Il y en a. On y a eu même des Noirs chez les Patriotes.
Qui le sait au Québec?
C'est occulté dans l'histoire.
Est-ce que les Noirs se serrent les coudes encore aujourd'hui? Parce que vous savez, je vais vous prendre un exemple.
Exemple, allez-y.
Un exemple qui n'a peut-être rien à voir, mais je suis d'origine française, je vis ici, je vois encore ici, quand je parle d'ici, je vais parler plus de Montréal, et pardon pour le reste du pays, mais c'est là que je vis. Il y a ici l'Alliance française, et je vois beaucoup de gens qui se retrouvent à l'Alliance française, qui vont fêter le 14 juillet, en tout cas, un truc. On va d'abord rester français de France, ici, au Canada, au Québec, à Montréal. Est-ce qu'il y a ce sentiment d'appartenance chez les gens qui ont la peau noire?
Pour moi, je vais parler en mon nom personnel. Puisque je suis d'origine haïtienne, bien sûr, Haïti a son histoire. Nous avons eu notre indépendance en 1804. Et il y a cette fierté pour nous, en tant que premier peuple noir indépendant dans l'histoire de l'humanité. Première république noire indépendante dans l'histoire de l'humanité, c'est Haïti. Donc nous nous sommes battus contre l'armée de Napoléon, contre les Français, parce que ce sont eux qui occupaient Haïti. Nous étions sous leur gouverne. Alors, il y a, pour moi, quand j'observe, il y a cette sorte de dichotomie dans la communauté noire. C'est-à-dire les Haïtiens qui sont fiers parce qu'ils ont eu leur indépendance, on est première république noire, et les autres qui sont encore sous le joug du, soit des Anglais ou des Français. Si on prend par exemple la Martinique, qui est considérée comme outre-mer, n'est-ce pas? Ça appartient toujours à la France, la Guadeloupe et toutes ces îles, que soit la Guyane française. Donc, c'est des histoires quand même. Mais quand on regarde, quand on se fait exemple, bon, le mot serait trop fort, maltraité par la police, ils ne savent pas, ils ne voient pas. Le jeune noir comprend qu'on met en prison, on n'a pas besoin de savoir s'il venait du pays, premier pays indépendant, ou l'autre
non,
est encore
européen. Il a la peau noire.
Donc, c'est là qu'on peut avoir cette solidarité. C'est sûr, quand quelque chose arrive à un autre noir, ça te sensibilise parce que les yeux, tous les regards sont vers toi. Quand on monte l'autobus, un noir a fait quelque chose, puis on voit des yeux, des regards là. Ça doit être pareil. Souvent, je suis intervenu auprès des gens, des fois. Regarde, oh, mais les noirs, aujourd'hui, j'ai dit, excuse-moi, quand un jeune blanc qui avait battu sa grand-mère pour la voler, pour de l'argent, est-ce qu'on va dire que tous les jeunes blancs battent leur grand-mère? C'est cette généralisation, généralité qu'on essaie.
Les chiffres sont là. Ce n'est pas vrai, ça n'a jamais été vrai que la population noire est plus dangereuse pour le reste
du
pays.
Tout à fait.
C'est dit dans le livre.
C'est dit avec preuve à l'appui, avec des chiffres et tout ça. Pourquoi, si on revient par exemple, toujours, le livre nous fait parler tellement de choses parce que c'est tellement frustrant et de savoir que ça existe. Je me rappelle quand j'enregistrais Noir sous surveillance, les techniciens avec nous, ça a été merveilleux parce qu'on pouvait échanger. Parce que pour moi, quand j'ai fait ce livre, il y a tellement de choses que je connaissais, ça me faisait plaisir
de le partager,
de dire « Ah oui, telle chose, c'est à telle date, c'était à telle époque, voilà, nous étions là, cette manifestation-là. » Donc, beaucoup de noms qui sont là, je les connais. Ça m'a fait vraiment... C'était une richesse. C'est un cours d'histoire.
Oui, absolument. Moi, il y a des choses qui m'ont fasciné dans ce livre et qui m'ont fait dresser le poil sur les bras, mais pas de la bonne façon, de la mauvaise façon. La dernière école ségrégationniste a fermé ses portes au Canada en quelle année, d'après vous? En 1983. C'est avant-hier.
Année avant la naissance de mon fils.
Ton
fils est né en 1984.
Donc, il y avait encore jusqu'à cette époque-là. Est-ce que c'était à Halifax?
C'est en Nouvelle-Écosse.
En Nouvelle-Écosse. Il y avait encore des écoles
ségrégationnistes.
83, c'est hier.
C'est hier.
Pardon,
Ça ne fait pas 40 ans. Il y a une exposition, je ne sais pas si c'est encore là, c'est au Musée de la Civilisation, je crois. Gatineau, nous sommes allés, il y a un des étages, il y a une exposition, je pense qu'elle est permanente, sur les écoles noires en Nouvelle-Écosse.
Justement.
Cette exposition, je l'ai vue il y a 3 ans. Je suis allée, je pense que c'est une exposition permanente. D'ailleurs, j'ai pris des photos de cette exposition-là.
Alors, je vous rappelle que je m'entretiens avec Mireille Métellus, qui a lu le livre « Noir sous surveillance » de Robin Ménard. C'est sorti chez Mémoire d'Encrier.
En français.
C'est donc Rodney Saint-Éloi qui est à la tête de ça, qui n'a pas pu venir avec nous aujourd'hui, mais bon.
Il voyage beaucoup, pour représenter Mémoire d'Encrier.
Mireille Métellus, lorsqu'Obama est arrivé au pouvoir, n'avons-nous pas eu, tous d'ailleurs, noirs et blancs, un peu d'espoir? Et puis quoi?
Oui, un peu d'espoir, mais moi je suis restée un petit peu pessimiste par rapport à ça. Je dis, est-ce que c'est parce qu'il y a un noir au pouvoir, est-ce que tout va bien aller pour nous?
Qu'est-ce que ça prendrait? Une femme noire?
Tout.
Mais
que ce soit un homme ou une femme, savoir... que quand même, ça reste la politique américaine.
Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr, c'est un peu difficile pour moi de dire, bien sûr, il y a une fierté, mais de savoir que tout va changer parce qu'on a eu un président noir, non. Ouais. D'ailleurs, on sait que le nombre qui a augmenté de cas.
C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui a changé Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé
dans le bon sens? Qui a changé dans peut-être le bon sens de savoir que tout jeune qui grandit, qui dit oui, je peux. Donc, yes, we can.
Yes, we can.
Oui, qui a un rêve. Ouais. Et ce n'est pas nécessairement un rêve américain, parce que le rêve américain, c'est d'avoir voiture, maison, et puis je vais être riche. Mais de savoir, oui, je peux étudier, je peux arriver là où ce monsieur est arrivé aussi. C'est un droit qu'on a, de s'approprier, quoi.
Qu'est-ce que vous diriez en ce moment si Justin Trudeau était là, en face de vous? Qu'est-ce que vous lui demanderiez? Qu'est-ce que vous lui diriez?
Qu'est-ce que je lui dirais?
En tant que femme noire, évidemment.
En tant que femme noire, bon, bien sûr, c'est avec lui. C'est lui qui a parlé de la décennie qu'on a dit pour les gens de descendance afro. Mm-hmm. Alors, mm-hmm. c'est sous son gouvernement de continuer.
De continuer.
De continuer, d'ouvrir les yeux.
Oui. Mm-hmm. Oui.
Puisque ce ne soit pas laissé seulement dans un petit groupe, mais c'est tout le monde.
Oui.
Oui, chaque personne a chaque personne... Dans un peuple, à sa personnalité. En même temps, chaque peuple a sa personnalité aussi, à ses croyances, à ses espoirs de pouvoir laisser travailler ces gens-là.
Ouais. Mmh. Ouais. Et dans ce livre-là, vous, qu'est-ce qui vous a marqué précisément dans le, je rappelle, Noir sous surveillance. À un moment donné, qu'est-ce qui a fait comme... Est-ce qu'il y a un moment donné où vous êtes arrêté de lire en disant, enfin, c'est pas possible. Tu sais, je pense, moi, je sais que j'ai été, entre autres, très, très touchée par Marie-Joseph Angélique, celle à qui on a reproché d'avoir brûlé Montréal, même.
Et mon Dieu, c'est drôle que ça vous ait marqué. Vous savez que vous avez devant vous la première comédienne à personnifier Marie-Joseph Angélique?
Je ne savais pas. Oui. Je ne savais pas, on ne trouve rien sur vous. Elle ne veut tellement jamais parler d'elle. Voyons donc. Oui.
Marie-Joseph Angélique, donc je pense en 1978, il y a un film qu'on appelle un docudrama. Donc c'est fait avec des extraits d'archives et également joués par des comédiens. Donc c'est moi qui personnifie Marie-Joseph Angélique quand elle a été arrêtée pour torturée. On l'avait accusé d'avoir mis le feu dans la maison de sa maîtresse. Et vous savez qu'à l'époque, j'oublie le nom de cette loi-là, qu'un enfant de 5 ans pouvait dire « Ah oui, je l'ai vu courir », puis on croit cet enfant. Comme les enfants ne mentent jamais, on croit cet enfant sur parole, ce qui est complètement faux. Mm-hmm. Ah oui, j'ai personnifié Marie-Joseph Angélique. Et, j'étais avec le Black Theatre Workshop, donc j'ai été choisie j'ai passé les auditions, et j'avais été choisie comme comédienne pour jouer ce rôle-là. Mm. Et où nous avons tourné cette scène-là, ça se passe dans une prison, une vraie prison délabrée qu'ils allaient démolir à Toronto. Donc cette scène a été tournée à Toronto. Et le film s'appelle Fields of Endless Day. C'est sur l'histoire des Noirs du Canada, en partant de Mathieu Dacosta avec Champlain, justement, je vous disais au début, qui était là. On parle de Harriet Tubman, des gens qui ont marqué l'histoire du Canada. Non, mais qui est occulté dans les livres d'histoire, puisqu'on ne sait pas qui les livres sont écrits. Alors, voilà. Mm-hmm.
Mireille Metellus, vous parliez tantôt du bus et vous-même, donc, vous vivez dans la communauté noire, dans la communauté des comédiens noirs, et ça, Dieu sait s'il n'y en a pas beaucoup.
est-ce que je vis dans la communauté? Non, je vis au Québec à Montréal depuis 1966. Donc, je peux dire que j'ai grandi.
Vous avez
grandi,
d'accord.
Des fois, on me dit « retourne chez vous ». J'ai dit « nous allons retourner ensemble ». Quand quelqu'un, je dis ça à la blague, la personne me dit « comment ça, retourner ensemble ?» J'ai dit « vous allez retourner en Europe, moi je vais retourner en Afrique ». Parce qu'en Amérique, il n'y avait ni noir ni blanc. Il y avait les Premières Nations. Donc, nous allons retourner ensemble. Chacun de son bord.
Comme ça, on va vider le Québec.
L'autre, je puis on va vider le Québec. Alors, voilà. Et souvent,
mais on vous le dit encore, ça?
Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Ça existe encore. Hein. Simplement, nous, je sais comment réagir. Mm-hmm. Donc, il faut qu'on aide nos jeunes à ne pas... C'est-à-dire à savoir comment répondre. Parce que nos jeunes d'aujourd'hui, malheureusement, vont répondre de façon agressive à elles. Dire des bêtises presque pour la bagarre, mais leur donner des outils et l'estime de soi pour qu'ils puissent savoir comment répondre. Parce que quand vous me dites retournez chez moi je suis ici depuis 53 ans, vous avez à peine 35 ans, qui était là avant vous? Alors d'une certaine façon, on va dire en la blague,
ouais,
je peux être votre mère, mes enfants sont nés ici,
Remarquez, oui. C'est ce que je réponds régulièrement à des jeunes.
Ah, vous, qui... on dit aussi, qui oh, vous bah, dit oui, pas avec votre accent.
Bah, dites, oui, moi sûr. Je fais partie de la minorité audible, mais ça existe ça. Aussi.
Moi, je suis visible et audible. Oui. Oui. Parce oui. que je dis, ah, vous n'avez pas notre accent. J'ai dit, mais tout le monde a un accent. La Gaspésie mais a un accent. Oui, l'île, oui, oui. L'île du Prince-Édouard a un accent. Cette île a un accent. Ouais.
Vous êtes une femme heureuse, accomplie, Mireille Metelus.
Tout à fait.
D'accord. Est-ce qu'il y a de l'amertume parfois? Est-ce que vous voudriez vous réveiller parfois en étant quelqu'un d'autre?
Oh non.
Jamais de la vie?
Non, jamais de la vie. Je suis Mireille, je suis fière de l'être et puis fière de ce que je suis, fière d'être noire. Quand j'étais plus jeune, j'étais dans un groupe, il y avait un poème de... C'est Bernard Dadier qui est décédé l'année dernière, je crois, qui était d'origine ivoirienne. Le texte disait « Je vous remercie, mon Dieu. Ouais. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noire. » D'avoir fait de moi la somme de toutes les douleurs. Bien sûr, en tête, j'oublie le reste, mais je disais ça et je disais ça avec une fierté de le dire. Bernard Dadier, poète d'origine ivoirienne, je crois, si je ne me trompe.
Ce sont donc, décédé. Ce sont donc des mots que vous portez.
Des mots que je porte et puis fier. Je vous raconte une anecdote.
Allez-y.
Je suis à l'école en 9e année. Il y a une élève, chaque midi, il fallait aller prendre notre chaise pour venir s'asseoir pour l'heure du dîner. Toujours, je prenais ma chaise, elle venait, elle me la... Elle prenait la chaise, elle s'en allait avec. Je ne disais rien. Il y a une journée, vous savez, des fois, on se lève du mauvais pied. Je lui dis, ça s'appelait Denise. On se voit, je ne sais pas si on est encore vivant, on doit avoir le même âge que moi. J'ai dit, Denise, remets-moi ma chaise. Parce que je n'avais pas envie d'aller chercher une autre ce jour-là. Elle me pousse la chaise en me disant, maudite négresse. Je la regarde. Ce que je ne devrais pas faire, mais elle a reçu une baffe du dos de la main. Je lui dis, maud, négresse, oui, maudite, non. Parce que je suis fière d'être négresse. Et ce n'est pas péjoratif pour moi. Je suis... Parce qu'en créole, hein, quand on dit négresse, c'est une femme solide. Alors négresse, oui, mais maudite, non. Et c'est pour ça qu'elle a eu le coup, en fait. Ce n'est pas parce que elle m'avait dit qu'elle était de négresse, mais c'est le maudite. Que j'ai trouvé trop dur.
Je suis tellement heureuse de vous avoir rencontré, côtoyé, Mireille Metelus, oui. et d'avoir eu cette négresse oui. solide. Et quelle lectrice de rêve que
merci,
vous faites.
Merci, ça me fait vraiment, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le faire.
Je rappelle le titre, Un noir sous
noir surveillance,
Robin Menard.
Et la traduction est de Catherine Egan, que j'ai rencontrée, oui.
Alors,
oui, d'ailleurs, Catherine, je l'ai rencontrée, elle est au Salon du Livre, elle dit, j'ai voulu le lire, mais... C'est vous qui avez eu
le contrat. Mireille Metelus,
ouais.
Merci tellement, mais tellement,
ça me fait
tellement.
Énormément
tellement.
Plaisir.
Bonne fin
merci.
De journée.
Merci à vous.
Des livres plein les oreilles, seconde partie. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme pour cette seconde partie? D'abord, quelques nouvelles qui concernent le livre audio. On va parler notamment d'un nouveau joueur en streaming, comme on dit. Et on va parler aussi de protection du livre audio. Et puis, je vais recevoir Marie-Ève Groux qui va nous présenter des livres pour les enfants directement sortis de notre catalogue de livres audio à Vues et Voix. Et puis, moi-même, j'en ai aussi à vous présenter, mais alors beaucoup plus pour adultes que ceux de Marie-Ève Groux. Est-ce qu'on y va tout de suite en chanson ou on y va tout de suite avec Marie-Ève? On va y aller tout de suite avec des nouvelles, tiens. Allez, remonte un peu la musique. Non, non, je vous rassure, je vais très très bien, mais il y a des fois comme ça où... Je ne sais pas pourquoi, je m'égare, mais je me retrouve assez rapidement. Alors, des nouvelles du livre audio. Oui, je vous le disais, il y a un nouvel entrant dans le monde de l'abonnement pour les livres audio. Ça s'appelle Cultura. Bon, c'est l'offre un peu plus classique hein, pour le streaming, c'est-à-dire à 9,99 €. C'est en euros, mais tout le monde, on peut tous évidemment adhérer à cela. Donc, ça fait 10 €, ça fait à peu près quoi, 13-14 $ à peu près bien mariée. Oui,
13 et 50,
c'est ça,
dire,
oui, bah, tu vois, entre, c'est ça. Alors, donc, ça s'appelle Cultura, et comme toujours, si vous êtes un nouvel arrivant dans ce streaming-là, ben, vous aurez le droit à un livre gratuit. Ensuite, pour 9,99 euros, donc 13-14 piastres, vous aurez le droit à un livre par mois.
Ce qui est à peu près les prix d'Audible.
Exactement. Donc, c'est à peu près la même chose. Et puis, c'est vraiment facile. C'est un fichier MP3 qui est à télécharger. Puis ensuite, on bascule ça sur son application de lecture, en tout cas. Suivez le guide, c'est vraiment très simple. Mais bon, ben, je tenais à le dire parce que ce que ça veut dire, la prolification de tous ces sites-là... C'est que le livre audio est en effervescence et nous, fatalement, ici, à Vues et Voix, hein, Marie-Ève, ça ne peut que nous satisfaire et nous plaire. Une autre nouvelle, moi, je prends toutes ces nouvelles-là dans Actualité avec 2T.com. Le livre audio serait-il plus à l'abri du piratage que l'e-book? À partir de 2015, le livre audio s'est déployé en numérique, alors que commençaient à ralentir les ventes du format CD, on le sait. Fort logiquement, à cette période-là, le piratage, nous dit-on dans ce papier, a également connu une embellie. Mais aujourd'hui que le marché se structure, l'audio-livre, c'est la question qu'on se pose, subira-t-il le même sort que ses camarades du livre numérique? Pas certain, à en croire les professionnels. Précision avant que je vous lise le papier, il sera beaucoup question de DRM, pour Digital Rights Management, en anglais, ou encore, si vous le préférez, ça c'est ce sont les contrôles que l'on met sur les sites internet pour empêcher au maximum qu'il y ait du piratage de livres. Alors ça se fait beaucoup en numérique, on se demande si ça va se faire aussi dans le domaine du livre audio. Alors je vous précisais ce qu'était avant DRM parce que on nous en parle énormément dans ce papier-là où on nous dit que ces DRM furent la véritable plaie du livre numérique quand la mesure de protection se bornait aux solutions d'Adobe. C'est lourd pour l'utilisateur, c'était contraignant, c'était peu intuitif. Bref, c'est un outil de protection de fichiers qui tombe aujourd'hui dans les oubliettes de l'histoire littéraire numérique en tout cas. Si des alternatives se présentent, comme la DRM Lite, on en parle en ce moment, le livre audio semble échapper pour le moment à ces outils-là. Audiolib, dont je parle souvent ici, qui est la filiale de Hachette Albin Michel autour du livre audio, a choisi de ne pas recourir au DRM. De même pour Madrigal, d'ailleurs, ça c'est Gallimard, Flammarion, Casterman. Bon, Gallimard, vous savez qu'ils ont cette collection qui s'appelle Écouter Lire aussi, où ils font des livres audio vraiment remarquables. Alors, eux non plus, ils ne veulent pas installer de DRM, donc de protection, pour ces fichiers audio. La raison est simple, dit Camille Dauchat, qui est la responsable éditoriale de chez Madrigal. Elle dit « La DRM introduit des contraintes qui ne sont pas compatibles avec les usages. Nous travaillons déjà avec le format MP3 qui pose problème pour certains revendeurs. Or, d'autres moulinent nos fichiers pour les rendre lisibles dans leur solution applicative. Ajouter une DRM dans ces tuyaux reviendrait à rendre illisibles les fichiers. »
Je sais qu'à Vues et Voix, c'est une question qui revient souvent, en fait, fait de la démultiplication des plateformes sur lesquelles on distribue.
Oui.
Parce qu'après, chaque plateforme n'a pas nécessairement la même protection. Donc, entre protéger le fichier à la base, entre la protection qui est offerte sur les différentes plateformes, puis là, ajouter à ça tous les passages web et agrégateurs web entre tout ça. Moi, c'est un labyrinthe. C'est un casse-tête.
Absolument. Alors, en tout cas, les solutions de surveillance, dit Camille Dauchat, qu'on connaît bien d'ailleurs ici, existent. Le groupe Hachette en emploie de nombreuses. Je serais curieuse de savoir, nous, lesquelles on emploie. Mais c'est pour surveiller les mouvements pirates, bien, ça revient souvent à collecter des informations très précieuses. C'est-à-dire qu'en fait, on les a à l'œil et on les a à l'oreille. Tout se fait en amont, si je comprends bien Madame Dauchat, qui dit tout particulièrement quand il ne s'agit pas de titres parmi les meilleures ventes. Un piratage en hausse peut devenir un indicateur et nous inciter à mettre en avant le titre sur les plateformes légales. À partir de là, ça va être beaucoup plus difficile à pirater. C'est bizarre, hein?
Oui.
Enfin, voilà. Donc, j'avais envie de vous partager ça, sachant surtout que Marie-Ève serait là et que j'étais convaincue qu'elle serait passionnée par ce sujet qui nous est présenté donc dans l'actualité www.lecoptile.com si vous aimez le livre audio. Est-ce que j'aurai un petit jingle pour qu'on fasse un petit jingle entre deux, quoi, pour simplement pour vous montrer qu'on va passer à autre chose. Voilà. Je sais pas ce que j'ai, c'est comme ça, c'est un jour comme ça. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour Clotilde.
Alors Marie-Ève, j'avais envie qu'on fasse le tour de ces nouveautés que j'ai vues apparaître depuis peu. Bon, en fait, c'était au mois de novembre dernier sur notre site de livreaudio.vusezvoix.com. On en fait quand même pas mal pour les jeunes. On pense à eux, on pense peut-être aux parents qui n'ont peut-être pas le temps de raconter les histoires le soir.
Oui, vos parents qui font beaucoup de routes avec les enfants et
aussi,
qui ont besoin de production audio de qualité pour toute la famille.
Oui.
Et donc, la série que je viens vous présenter aujourd'hui, elle est sortie en novembre dernier, donc dans le cadre du Salon du livre de Montréal. Oui. Et c'est une série qui s'appelle La classe de Madame Isabelle.
Voilà.
Moi, c'est une série sur laquelle j'ai beaucoup accroché parce qu'elle me rappelait un peu le bus magique dont j'étais fan quand j'étais petite. C'est-à-dire que l'école devenait le prétexte d'une aventure absolument folle, genre rentrer dans le corps humain, par exemple. J'ai beaucoup appris avec le bus magique. Et cette série-là de la classe de Madame Isabelle, c'est donc dans la classe de Madame Isabelle, comme vous l'aurez deviné. Et au début de chaque cours, c'est l'élève de la journée qui, donc, avec la classe, chante l'espèce de chanson formule magique.
Qu'on va entendre. D'accord. Mais tiens, alors, un petit extrait tout de suite, parce que c'est comme ça que ça va, que commence...
Chaque histoire.
Je me souviens plus... Oui, c'est Justine Chevalière, s'il vous plaît. Merci.
Depuis toujours, Justine rêve d'être un personnage de conte de fées, pas la princesse, encore moins une sorcière. Elle aimerait plutôt être chevalière. Ce matin, dans la classe de Madame Isabelle, Justine a la chance d'être l'élève du jour. Elle attendait ce moment depuis le début de l'année. Elle et ses amis vivront une aventure très spéciale grâce à leur enseignante un peu magicienne. Le reste de l'école ne doit surtout pas le savoir. Dès que la cloche sonne, tous les autres élèves entourent Justine. Ils récitent en chœur la formule magique. Pompier, policière, astronaute ou pâtissière, élève du jour, quelle est ta passion? Ensemble, ton rêve, nous réaliserons. Une lumière blanche les enveloppe. Et... Chapitre 2.
Et vous ne l'aurez pas parce qu'il va falloir vous le procurer
pour
l'entendre, le chapitre
2.
Mais non. La voix délicieuse
de Sophie Cadieux.
Qui est tellement, cette voix si particulière, mais qui colle tellement bien avec ses lectures pour les enfants.
Pour moi, l'interprétation de Sophie Cadieux est vraiment... Et vraiment, elle a quelque chose d'un peu magique. Elle a cette espèce de voix qui peut faire à la fois adulte et enfantine. Oui. Donc, pour jouer comme ça plusieurs personnages, si je peux dire, c'était vraiment le casting idéal.
On peut peut-être en écouter un autre. Et là, cette fois-ci, je pense que je vous ferai grâce de tout ce qui se passe au début. On va peut-être directement aller au chapitre 2. Et cette fois-ci, on est avec Nathan, astronaute.
Oui.
Nathan adore l'espace. Il aimerait être un astronaute. Cet après-midi, c'est lui l'élève du jour de la classe de Madame Isabelle. Son enseignante a un petit secret. Elle est un peu magicienne, mais chut! Il ne faut pas le révéler aux autres enfants de l'école. Madame Isabelle demande à Nathan de se placer devant elle. Elle réunit ses élèves et dit « Es-tu prêt à devenir astronaute, Nathan ?»« Oui !» répond le garçon sur un ton décidé. Et... Chapitre 2. Nathan porte un habit d'astronaute. Il est aux commandes d'un vaisseau spatial. Il a un équipage sous ses ordres. L'astronaute Nathan est heureux. J'aime le grondement du moteur. William, son copilote et meilleur ami, le corrige aussitôt. Ce n'est pas le grondement du moteur, Nathan. Il se tape le ventre à deux mains. Je n'ai rien avalé depuis le décollage, explique William. Madame Isabelle entre dans la cabine de pilotage. L'hôtesse de l'espace tient un plateau de muffins aux fruits. C'est sa spécialité. Vous avez faim, monsieur? Leur demande-t-elle. Le copilote William s'empare d'un muffin. Il veut y goûter et l'écrase contre la visière de son casque. Il a oublié de la relever. Oups! Tu es encore dans la lune, William, lui signale Nathan en rigolant.
Et c'est toi, Mathieu, hein? C'est Mathieu Tessier qui fait... qui... voilà, qui est de l'autre côté. C'est lui qui a rajouté tous ces bruits de gargouillement, presque de gros félins, finalement. Et à un moment donné, j'ai dit, ça y est, va y avoir... en tout cas... Attends, mais non, ouvre ton micro, mon petit Mathieu.
Mais oui, c'est moi.
Mais oui, c'est toi. Mais dis-moi, aimes-tu faire ça? Parce que
j'adore
ça te change.
Faire ça.
C'est vrai, hein?
Oh oui. Surtout, comme vous disiez, travailler avec la voix... de ah Sophie, oui. C'était qui est capable de moduler sa voix quand elle fait des voix de garçon.
Ah oui, hein?
On y croit sans trop transformer sa voix. Uh-huh. Ça a été 4 projets vraiment agréables à faire.
Puis, ben, merci. Oui.
L'ambiance sonore Marie-Ève. Comme ça, parce qu'on travaille de plus en plus avec les techniciens à la production, mm-hmm. Parce qu'on s'est rendu compte que pour des livres jeunesse, s'il n'y avait pas d'image, ça nous prenait absolument autre
absolument.
Chose. Donc, cette part de créativité-là qui, normalement, est laissée aux illustrateurs, aux illustratrices, ben nous, c'est les techs chez Vusez-Voix, en fait, qui en font la création.
Et je tiens à préciser que La Panthère Rose n'a rien à voir là-dedans. C'est moi qui me suis amusée à mixer ça. Mais si vous achetez les bouquins, il n'y aura pas la musique de M. Mancini dans ces œuvres-là. Il y en a un autre qui... C'est, parce que ça aussi, c'est une collection, c'est la bande des Tucs.
Oui.
Et j'avais envie qu'on en touche un petit mot de Luc et les disparitions.
Et les mystérieuses disparitions. C'est un album exclusif, un peu, si je peux dire, qui donc fait partie de la collection de la bande des Tucs. Mm-hmm. Pour le moment, cette collection-là, elle regroupe 3 livres jeunesse différents. Donc, La course des Tucs, qui est vraiment tirée du film en animation 3D qui avait été lancé l'année passée, et 2 nouvelles histoires exclusives. Donc, Luc et les mystérieuses disparitions, et Lucie et les lingots d'or. Et Lucie et
oui.
La légende des lingots d'or.
C'est
voilà.
Ça, oui, que j'ai vu aussi sur notre site. Ouais.
Et ce qu'on a fait en fait pour le casting de ceux-là, on s'est dit, vu que le film a tellement été un succès, qu'il y a déjà des acteurs qui sont associés dans la tête des enfants à ces personnages-là, on a donc fait lire Luc par Nicolas Savard-L'Herbier, qui interprétait Luc dans le film d'animation 3D.
D'accord.
Et l'histoire de Lucie, mais là, on a l'air redondant parce que c'est la même chronique, mais c'est aussi la très bonne Sophie Cadieux qui interprète
Lucie.
Ah
oui, aussi.
Parce
oui.
que c'était elle qui faisait Lucie dans le film
mais
à
oui,
la base.
Mais oui, bien sûr. Alors, là, on est dans une atmosphère un petit peu mystérieuse, avec des enfants qui jouent à cache-cache, et puis il y a un clairon, le clairon du papa,
oui.
qui est un objet bien important
oui,
là-dedans.
Mais qui se fait voler, en fait, qui disparaît mystérieusement au début de Luc et les disparitions magiques et les disparitions mystérieuses. Mon Dieu, je me mélange dans les titres. Enfin, l'histoire de Luc, c'est le oui. clairon de son père disparaît et là, affolé devant cette disparition-là qui n'a pas de bon sens pour la bande des Tucs, ils décident ensemble d'aller à la recherche du clairon et des autres objets du village qui ont disparu.
Bien que je ne me défasse jamais du clairon que j'ai hérité de mon père, là, je n'ai pas le choix. Il ne faut pas que l'autre me trouve, sinon je suis cuit. Tant pis. Je pose mon précieux clairon au pied d'un arbre dégarni de toutes ses feuilles. L'hiver est glacial au village. Je le recouvre de 2 branches de mélèze qui jonchaient le sol et je reprends illico ma course. Je cours me cacher derrière une petite cabane en bois. Je m'accroupis et j'enlace mes jambes avec mes bras, pourvu qu'il ne me trouve pas. J'entends des pas dans la neige. Des pas qui approchent. Trouvé! Franchement, Luc, t'aurais pu choisir un autre endroit où te cacher. Tu sais bien que je regarde toujours derrière la cabane en premier quand on joue à cache-cache. Je me relève et regarde mon ami Zach en souriant. Bon, c'est vrai que je me suis pas forcé pour trouver une cachette digne d'un membre de la bande des Tucs. On est les rois du jeu de cache-cache. Il faut dire que j'étais occupé à parler avec mon amie Sophie pendant que Zach avait le dos tourné et comptait jusqu'à 100, le visage caché dans ses mitaines. Je n'ai pas eu assez de temps pour me trouver un meilleur endroit. Crapaud et crapaud, je me suis fait prendre le premier. Mais pas si vite, Zach. N'oublie pas qu'il te reste encore Sophie, Jacques et Charlie à trouver. Trop facile. Tu sais bien que je suis le plus rapide et le meilleur pour dénicher vos cachettes.
C'est quand même génial. En voyage ou alors au coin du feu.
Moi, j'adore
mais
ça.
Mais oui,
j'adore.
Mais oui, moi aussi. Non, c'est vraiment
sympathique. Je retrouve le plaisir de ciné-cadeau presque oui. À écouter ces histoires-là. Non, il y a l'enfant à moi ouais. Qui surgit. Même en plein janvier, c'est encore bon.
Et devinez... Où on les retrouve, ces histoires-là, en livre audio? Livreaudio.vusezvoix.com, bien oui. Sûr. Merci beaucoup, Marie-Ève. Et
plaisir.
Puis, j'espère qu'on aura l'occasion de revoir l'adorable Sophie Cadieux, peut-être pour nous en lire d'autres livres pour enfants.
Sûrement, sûrement. On lui lance un appel au micro, peut-être.
Sophie, si tu es là, reviens nous voir.
Que je sois né d'hier ou d'avant le déluge, j'ai souvent l'impression de tout recommencer. Que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge dans mes chansons, toujours j'ai voulu exister. Que vous sachiez de moi ce que j'en veux bien dire, que vous soyez fidèle ou bien simple passant, et que nous en soyons juste au premier sourire. Sachez ce qui pour moi est le plus important, oui le plus important. Pas mourir, écrire sagesse ou délire, écrire pour tenter de dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé, écrire et me débarrasser, écrire pour ne pas sombrer, écrire au lieu de tournoyer, écrire et ne jamais pleurer, rien que des larmes de stylo qui viennent se changer en mots pour me tenir le cœur. Quelques décades, je ne supporte pas de voir le temps passer. On arpente sa vie au pas de promenade et puis on s'aperçoit qu'il faudra se presser. Que vous soyez tranquille ou plein d'inquiétude, ce que je vais vous dire, vous le comprendrez. En mettant bout à bout toutes nos solitudes, on pourrait se sentir un peu moins effrayé, un peu moins effrayé. Pas mourir, écrire tendresse ou plaisir, écrire pour tenter de dire tout ce que j'ai compris, dire l'amour et le mépris, écrire me sauver de l'oubli, écrire pour tout raconter, écrire au lieu de regretter, écrire et ne rien oublier, et même inventer quelques rêves de ce qui empêche qu'on crève quand l'écriture un jour s'achève. Qu'on m'écoute en passant d'une oreille distraite ou qu'on ait l'impression de trop me ressembler. Je voudrais que ces mots qui me sont une fête, on ne se dépêche pas d'aller les oublier. Que vous soyez critique ou plein de bienveillance, je ne recherche pas toujours ce qui vous plaît. Quand je soigne mes mots, c'est à moi que je pense. Je veux me regarder sans honte et sans regret, sans honte et sans regret. Ne pas mourir, écrire grimace et sourire, écrire et ne pas me dédire, dire ce que je n'ai su faire, dire pour ne pas me défaire, écrire habiller ma colère, écrire pour être égoïste, écrire ce qui me résiste, écrire et ne pas vivre triste et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos, écrire et pas me foutre à l'eau. et me dissoudre dans les mots, qu'il soit ma joie et mon repos. Écrire et pas me foutre à l'eau. Écrire pour ne pas mourir, pour ne pas mourir.
Quelle grande chanson à chaque fois. Merci Mathieu d'avoir choisi cette chanson-là pour nous amener sur un plateau, un livre dont j'ai très envie de vous parler. C'est dans la série « Ça peut pas faire de mal », une série que Guillaume Gallienne, qui est un comédien, un spécialiste de la lecture à haute voix, nous encourage à écouter via Gallimard et via cette collection Écouter lire. Alors il y a eu un Ça peut pas faire de mal sur la littérature jeunesse, il y a eu un Ça peut pas faire de mal sur les romans français du 19e siècle aussi. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait écouter tous ces gens-là et les lire, tous ces gens qui écrivent? Et là, il vient d'enregistrer un livre audio sur les femmes écrivains, que sont Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, Simone de Beauvoir, Annie Ernaux. Et c'est il commente les écrits de ces femmes-là, dont il lit des extraits des principales œuvres. Je pense à Annie Ernaux, au moment où on a enregistré cette émission-là, il y avait sur Facebook un post, une publication qui circulait beaucoup sur le fait que cette écrivaine, une des plus grandes de son époque, de sa génération, à qui l'on doit les années notamment. Je sais aussi que c'est une des préférées de Claudia La Rochelle. Annie Ernaux s'est invitée dans une station de radio, oui, à France Inter, pour ne pas la nommer. Et cette femme-là, d'ordinaire très très discrète, a fait elle a tenu des propos extraordinaires sur le mouvement des femmes, sur le mouvement féministe, en disant que non, il fallait surtout pas que ça arrête. Elle a dit à quel point le hashtag MeToo a été pour elle un déclic terrible dans sa vie. Et donc Annie Ernaux, qui est un personnage formidable, est représenté dans ce livre « Ça peut pas faire de mal », présenté, lu, commenté par Guillaume Gallienne. Il y a également Simone de Beauvoir. Je vous propose un extrait justement d'écrit de Simone de Beauvoir tel que lu et commenté par Guillaume Gallienne.
Ce destin, je l'accommodais à ma manière. Méprisant les autres enfants qui s'en amusent avec incohérence, nous avions, ma sœur et moi, une façon particulière de considérer nos poupées. Elles savaient parler et raisonner. Elles vivaient dans le même temps que nous. C'étaient nos doubles. J'acceptais la discrète collaboration de ma sœur Poupette, que j'aidais impérieusement à élever ses propres enfants. Mais je refusais qu'un homme me frustrât de mes responsabilités. Nos maris imaginaires voyageaient. Dans la vie, je le savais, il en va tout autrement. Une mère de famille est toujours flanquée d'un époux. Mille tâches fastidieuses l'accablent. Quand j'évoquais mon avenir, ces servitudes me parurent si pesantes que je renonçais à avoir des enfants à moi. Ce qui m'importait, c'était de former des esprits et des âmes. Je me ferais professeur, décidai-je. Je ne concevais pas que l'avenir pût me proposer entreprise plus haute que de façonner un être humain. Je me rends compte aujourd'hui que dans ma future création, comme dans ma poupée Blondine, c'est moi que je projetais. Tel était le sens de ma vocation. Adulte, je reprendrai en main mon enfance et j'en ferai un chef-d'œuvre sans faille. Je me révèle l'absolu fondement de moi-même et ma propre apothéose. Ainsi, au présent et dans l'avenir, je me flattais de régner seul sur ma propre vie. Cette petite fille précoce au caractère et aux idées bien trempées tiendra ses promesses. Née en 1908, elle devient dans le Paris des années 50 le symbole de la femme libre, revendiquant sa place d'écrivain aux côtés des grands intellectuels d'après-guerre. C'est par ces mots audacieux en effet que se présente Simone de Beauvoir. Ce portrait d'elle, enfant, à l'âge de 8 ans, ouvre ses mémoires d'une jeune fille rangée, le premier volume de son autobiographie publié chez Gallimard en 1958.
C'est agréable, hein? C'est un drôle de truc, l'écriture, écrivait Marguerite Duras. Être femme, c'est le résultat d'une histoire. écrivait pour sa part Simone de Beauvoir. Il est des livres qu'on ne doit pas oser. Avant d'avoir dépassé 40 ans, on risque avant cet âge de méconnaître l'existence des grandes frontières naturelles qui séparent l'infinie variété des êtres, écrivait Marguerite Yourcenar. Et il n'y a pas de vraie mémoire de soi, écrivait pour sa part, écrit toujours, parce qu'elle est toujours parmi nous, Annie Ernaux. Ça peut pas faire de mal, les femmes écrivains, un ouvrage, je vous le rappelle, issu de l'émission de Guillaume Gallienne, présenté sur France Inter et que vous pouvez maintenant découvrir sur la plupart des sites audio, notamment Écoutez lire chez Gallimard. Voilà, ainsi se referme ce nouveau chapitre de l'émission « Des livres pleins les oreilles » consacré dans sa première partie au livre « Noir sous surveillance » de Robin Ménard, lu par Mireille Métellus, qui était avec nous aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier Marie-Ève Groux, qui est venue nous présenter quelques nouveautés pour la jeunesse que vous pouvez retrouver sur notre site livreaudio.vusetvoix.com. Et puis, je voudrais remercier Mathieu Tessier, bien sûr, qui est toujours là, très fidèle, quelquefois du côté de l'enregistrement des livres et quelquefois en radio. Merci beaucoup à vous toutes et vous tous d'être là. Parlez-en de cette émission, écoutez-en des livres audio, c'est important. C'était Clotilde Seille qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut.